This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Louis.
Nova.
En fait, j'aime bien sentir que ma parole se déroule. Mais de temps en temps, elle n'est pas fluide. C'est quelque chose qui me retient. Enfin, il y a un petit conflit, quoi, à l'intérieur de ma parole.
Zoé Besmond de Senneville est comédienne et modèle d'art, et le jour de ses 25 ans, elle a ressenti les premiers signes de son autospongiose. C'est une maladie qui se traduit par une perte progressive de l'audition, la même que Beethoven. Comment vivre avec une audition diminuée? Comment se réconcilier avec la maladie? Faut-il lui trouver un sens? Au premier confinement, dans le silence retrouvé à l'écart du monde, Zoé commence un journal sous forme de podcast, un journal audio de sa perte d'audition. Et puis désormais, ce journal est un livre, journal de mes oreilles. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Moi, j'ai commencé à avoir très mal aux oreilles le jour de mes 25 ans. Après, je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu d'audition quand ces inflammations aux oreilles se sont un peu résolues. Il me restait des acouphènes assez présents et puis je faisais quand même répéter les gens. Et du coup, j'ai fait des audiogrammes, enfin, j'ai fait tout un tas d'analyses, dont un scanner. Et là, on m'a diagnostiqué une autospongiose. C'est une maladie de l'oreille qui touche un des petits os de l'oreille moyenne, qui s'appelle l'étrier, qui est vraiment un os tout petit, et qui va empêcher la transmission du son. Il y a eu un constat de ma perte auditive et aussi de qu'est-ce qui était en train de se dégrader à l'intérieur de moi, en fait. Parce que c'est une maladie qui dégénère, enfin qui, voilà, qui s'appelle comme ça en tous les cas, maladie dégénérescente. Ça fait un peu flipper.
Et alors, qu'est-ce qui dégénérait à l'intérieur de vous?
C'est un peu ce que j'essaie de trouver, moi, dans ma recherche. Parce que quand on m'a diagnostiqué ça, j'ai cherché à savoir d'où ça venait. La première chose, moi, qui m'a marquée, c'est que c'est l'os, donc c'est le métabolisme de l'os. Donc il y a quelque chose avec l'alimentation, moi, que j'ai réglé, sur lequel j'ai travaillé pendant un moment, qui m'a permis d'un peu désamorcer tous les petites inflammations ORL que j'avais au début. Ensuite, pour moi, l'os, c'est aussi les ancêtres. Donc moi, j'ai aimé, j'ai voulu aller chercher un peu ce qui se passait dans ma famille, de regarder mon arbre généalogique, de regarder qu'est-ce qui circulait dans ma famille. Quels étaient les non-dits, et là on en revient au silence aussi, quels étaient les grands thèmes de la famille, les répétitions, tout ça, et ça a été vraiment très important. Et alors dans ma famille, c'est très marrant parce qu'on a un blason dans la famille de ma mère et il y a des éperons. L'oreille, c'est aussi en forme d'escargot, et on a une maison qui est située dans un village dans le sud de la France, qui est à l'intérieur d'un escargot. Donc moi, c'est des petits signes comme ça qui m'ont marqué, en plus de l'autospongiose qui se déclare le jour de mon anniversaire, et puis d'autres petits signes de date, de petits clins d'œil, voilà, comme si c'était, je sais pas, j'étais guidée ou par où est-ce qu'il fallait que je cherche, quoi.
Parce que ce qui est frappant dans le livre, c'est que vous faites le récit de cette perte d'audition et vous y cherchez un sens philosophique ou psychanalytique, comme si il fallait forcément qu'il y ait un sens pour que cette maladie ait une logique.
Je pense que la recherche de sens, elle se présente très vite dans ma vie, même avant l'autospongiose. Elle s'est présentée quand j'ai commencé à prendre conscience de mon état émotionnel de départ. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux et puis j'ai tendance à avoir on va dire, des gros nuages au-dessus de moi. Enfin, c'est peut-être une espèce de, d'état dépressif, latent. Voilà, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose avec ma famille qui n'était pas, clair. Enfin, il y avait un lien avec mes ancêtres qui était un petit peu... qui n'était pas limpide. Donc la recherche du sens, elle a vraiment commencé là. Je devais avoir une vingtaine d'années et j'ai fait le lien entre ce qui se passait dans mon corps et puis le rapport à la mémoire, la façon dont je me positionne dans ma vie avec mes pensées, mon psychisme, mon énergie, mais aussi toute la mémoire qui est imprégnée sur moi. Et c'est là où la généalogie, elle rentre en ligne de compte.
Parce que ce que vous dites dans le livre, en substance, c'est que si votre corps ne peut plus entendre, c'est qu'il y a des formes de résistance par rapport à des non-dits qui a déjà eu.
C'est une réponse à l'impuissance, parce que finalement, moi, quand on me diagnostique cette maladie, la seule chose qu'on me dit, c'est écoutez, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire. Votre câble, il n'est pas opérable. Si vous voulez, on vous donne des appareils auditifs. Hein, c'est une façon de traiter finalement le problème. Et du coup, j'imagine que j'ai voulu aussi me raccrocher à des choses sur lesquelles je pouvais tenter d'agir. Maintenant, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai aussi constaté qu'il y avait des récits, il y avait des gens qui arrivaient à désamorcer en fait des enjeux physiques ou psychologiques en allant chercher à l'intérieur de leur lignée. En fait, il y a des choses qui se manifestent dans le corps parce qu'elles sont profondément enfouies. En fait, c'est une façon de... Enfin, c'est le principe de la manifestation, je pense. C'est à un moment un truc qui solidifie, quoi. Et c'est d'autant plus signifiant dans mon corps, parce que c'est vraiment ce qui se passe. En fait, il y a des petits morceaux d'os qui se désagrègent, en fait, dans l'oreille et qui se solidifient sur des endroits de l'oreille. Et c'est là où ça bouche l'audition. Donc, moi, je fais des liens vraiment très concrets entre plein de trucs, quoi.
Entre plein de trucs, donc entre, par exemple, votre histoire familiale, cette question de ce qui se transmet dans les os et votre maladie.
Oui, en fait, dans ma famille, la parole circule de façon un peu étrange. Je pense qu'il y a des traumas qui sont liés à des déplacements dans ma famille de part et d'autre. Et qu'il y a une difficulté à poser les mots sur ce qui s'est vécu. Et les endroits de traumatisme, et je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'en fait je ne sais pas, les secrets sont plutôt très bien gardés, et peut-être que c'est ça le souci du silence, c'est qu'il crée des mythes, et du coup on va imaginer derrière le silence quelque chose qui ne s'est pas produit. Ce qui est rigolo, c'est que dans mes oreilles, finalement, là, en ce moment, on me demande de parler et d'essayer de décrire de ce qu'il y a dans mes oreilles, enfin, de comment j'entends les choses. Et effectivement, c'est pas du silence. C'est finalement, c'est une espèce de brouillard de bruit, où c'est des nappes de bruit où j'arrive pas trop à distinguer ce qui se dit, les phrases. En fait, les consonnes se placent sur des fréquences différentes et parfois j'ai du mal à choper les consonnes.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé quand vous avez commencé à entendre moins bien dans votre rapport aux autres et surtout dans votre rapport à la conversation avec les autres ?
En fait, ma première action, ça a été de le cacher, de cacher ce que je vivais. Et c'est quelque chose qui m'a pas du tout aidée parce que moi j'aime plus utiliser le mot handicap, je crois c'est plutôt une forme de différence. Ça demande vraiment à ce que la personne elle s'adapte, mais sauf que si je cache ma différence, la personne va pas pouvoir la personne qui est en face va pas pouvoir s'adapter. Et donc ça a été vraiment mon premier réflexe de cacher, et évidemment, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça enraye le lien social, quoi. Ça transforme le lien à l'autre, mais aussi parce que je cherche à le cacher. Alors qu'à partir du moment où j'accepte de l'assumer et que j'en parle, tout de suite, le lien, il se transforme. C'est plus le même qu'avant, ça passe plus exactement par la parole et que par la parole. Moi, en entendant moins bien, mon rapport au monde, il se transforme et je m'adapte à entendre plus avec tout mon corps. Et du coup, je vais plus être liée à l'autre, mais vraiment avec quelque chose de plus vaste, avec tout mon corps. En tout cas, moi, ça me fait vraiment switcher par là. En fait, déjà, pour moi, ça me demande une concentration. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus présente en face de la personne, parce que je suis beaucoup plus concentrée sur ce qu'elle me dit. Et puis, et à partir de ce moment-là, si je suis beaucoup plus présente, je perçois beaucoup plus de choses de l'autre. Enfin, j'ai un lien beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus profond. En fait, je remarque plus, je pense, l'énergie des gens et la façon dont ils me parlent. Parce que parfois, j'entends pas forcément ce qu'ils me disent, mais j'entends qu'ils me parlent mal ou qu'ils le disent d'une façon particulière. Et ça va plus être cette chose-là qui va ressortir que ce qu'ils vont me dire. Moi, ce qui m'a marqué en tout cas au début, c'est que je devais présenter un peu mes appareils, quoi. Je devais les amener dans la conversation. Et se faire des présentations, de dire voilà, je suis appareillée. Enfin, dans le cas de rendez-vous galant, moi j'ai presque l'impression que c'est quelque chose qui me règle de la liste, quoi. C'est pas limpide. C'est pas un truc que j'ai envie de présenter en premier quand je rencontre quelqu'un, quoi. En fait, parfois, quand je suis dans des groupes, ce qui me gêne, c'est que tout le monde parle en même temps et me regarde pas en face. Donc là, je vais être gênée par le fait que j'entende pas bien et qu'ils fassent pas forcément l'effort de me parler en face, parce que il y a une difficulté à se rendre compte de qu'est-ce que je vis exactement et qu'est-ce qui se passe exactement dans mes oreilles. Je peux être un peu agacée par ils font pas d'effort, c'est bon, quoi.
Comment est-ce que vous en êtes venue à faire un podcast sur votre histoire?
En fait, c'était pendant le confinement, le premier confinement, du coup. Donc, c'était la toute première fois, moi, que je me retrouvais vraiment seule avec moi-même pendant un si long temps, en tant que comédienne et même que modèle d'art. J'ai eu tendance à être vraiment là pour les autres et j'ai bien senti qu'il y avait des limites à ça, puisque mon audition a commencé à baisser, donc concrètement... C'est plutôt l'intérieur de moi que je devais écouter. En tout cas, c'est une invitation à ça. J'ai commencé à faire une espèce d'introspection pendant ce confinement qui a été mêlé de séances d'écriture, de yoga, de machin. Et au bout d'un moment, il y a cette question qui est arrivée. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui te ferait guérir? Et c'est là où j'ai reçu cette réponse, où j'ai imaginé cette réponse, où j'ai... créer cette réponse. Journal de mes oreilles, en tous les cas, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai décidé de dérouler. Et j'ai eu envie de partager aux gens avec qui j'avais vécu ces deux ans traumatisants de perte auditive et d'appareillage et de diagnostic et de perte de repères, tout ce qui s'était passé en bloc, en reliant les événements les uns avec les autres. Est-ce que c'est une façon de m'excuser ou une façon d'expliquer, en tous les cas? Parce que j'ai conscience qu'ils n'ont pas compris. Et là, le podcast, ça permet de leur dire, OK, voilà tout ce qui s'est passé. Maintenant, vous pouvez comprendre.
Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris?
Ils n'ont pas compris comment je me comportais. Parce que je me suis mise en retrait, en fait. Je me suis mise en retrait de ma vie. À un moment donné, quand j'ai perdu mes appareils, j'étais complètement perdue. J'arrivais plus à être en lien avec les gens. Enfin, les groupes me faisaient mal. J'avais plus de vie sociale. Forcément, les gens autour de moi, ils avaient un peu peur, mais aussi, ils ne comprenaient pas. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle a, Zoé, là? Puis, j'ai beaucoup pleuré aussi. Enfin, j'étais mal, quoi.
Et vous ne leur aviez pas dit?
Si, je leur ai expliqué, mais par petits bouts, et j'arrivais pas forcément à avoir l'intelligence de tout ce qui s'était passé, parce que j'avais pas le temps, et j'avais pas aussi le recul, et j'étais trop immergée dans mes émotions, et pour tout expliquer d'un coup, enfin, il fallait une heure, quoi.
Et qu'est-ce que ça symbolisait pour vous de faire un podcast sur votre perte d'audition?
J'ai tellement pas fait exprès. Je sais pas, il y a quelque chose où je suis devenue ma création. C'est un peu bizarre, en fait.
Quel était pour vous le sens de transformer cet objet sonore, qui vous échappait un peu, du coup, en objet livre, que vous maîtrisez peut-être davantage, au sens où vous pouvez faire exactement ce que vous voulez.
Oui.
Vous pouvez aller exactement où vous voulez avec le livre.
L'écriture, il y a quelque chose de l'ordre du présent qui se déroule et qui accepte de se dérouler ou que j'accepte de dérouler. Mais oui, je suis plus dans la maîtrise de... Parce que je vois les mots alors que j'entends pas forcément tous les sons, d'accord ? Je tiens pas à maîtriser mon processus de création, ni dans l'écriture, ni dans quoi que ce soit d'autre. J'aime bien que les choses m'échappent et je trouve que c'est vraiment là qu'est la beauté.
Et vous cherchez pendant tout le livre une forme de guérison que vous appelez de vos voeux. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de miraculeux dans la création ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de guérisseur ?
Peut-être il s'agit de comprendre ce que ça veut dire que la guérison et que le mot guérison et que le chemin me permet de comprendre ce que ça veut dire en fait. Est-ce que c'est la guérison de mes oreilles ou est-ce que c'est une guérison plus profonde ? Enfin, qu'est-ce que ça implique vraiment guérir, en fait, pour moi, dans mon corps ? Quel est l'enjeu de ma guérison à moi ? Peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste mieux entendre. Peut-être que c'est mieux m'entendre moi. Peut-être que c'est être une créatrice. Peut-être que c'est être en lien avec les gens de façon plus profonde. Et du coup... Je continue à apprendre et à développer cette acuité. Qu'est-ce que ça veut dire guérir ? Et c'est passionnant.
Zoé Besmond de Senneville publie le journal de mes oreilles chez Flammarion. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie, ou encore Émotion ou Travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.